Radio des écoles françaises.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio du CEF.
Éducation, identité et culture.
Ce samedi 18 novembre à Saskatoon, et plus exactement au Collège Mathieu, Francine Prokenzel et Roger Gauthier animeront une formation de premiers soins en santé mentale. Cette formation donne lieu à un certificat de la Commission de la santé mentale du Canada. Pour l'occasion, nous rencontrons Francine.
Bonjour Francine, donc vous êtes avec nous aujourd'hui dans le cadre des cours de premiers soins en santé mentale que vous allez donner aux côtés de Roger Gauthier. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'offrir cette formation ?
Bien, moi, je crois que cette formation va contribuer à réduire la stigmatisation, puis même les préjugés que plusieurs d'entre nous qu'on retient quand on parle de la santé mentale. Donc, la formation va démystifier des tabous, va clarifier des choses pour les participants. Donc, vraiment, ça fait partie de la stratégie aussi du réseau santé, le réseau santé francescois, pour outiller les personnes en province au sujet de la santé mentale.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, autour de ce sujet, il y a comme un peu un certain tabou qui s'est installé ou qui est là depuis toujours d'ailleurs, et dont les gens n'osent pas parler parce qu'ils considèrent que c'est un peu une honte, même j'irais jusqu'à dire, alors qu'en fait, quand on en parle, on se rend compte que bon, on a tous des difficultés, que justement, c'est bien d'ouvrir la voie.
Tout à fait. Et vraiment, avoir de l'information vient changer, peut changer, faire un changement de paradigme dans la façon qu'on voit notre santé mentale.
Oui, c'est ça, lui redonner une importance.
Exactement.
Et cette formation, elle va se faire sur 2 jours. Comment est-ce que ces journées, elles sont composées?
Bien, c'est des journées quand même assez intenses, mais ce n'est pas juste de la théorie. Hein. On offre, une certaine théorie ou de l'information, mais on pratique surtout les 5 gestes de base pour les premiers soins en santé mentale. Et on fait ça à travers 4 différents modules, disons, dans les 2 jours. Alors, on va parler les troubles de santé mentale liée aux substances. On va parler des troubles de l'humeur. Et ça, c'est le premier jour. Et le 2e jour, on rentre dans les troubles anxieux et les troubles liés au traumatisme. Et aussi, on termine avec les troubles psychotiques. Donc, ces 4 dimensions, ces 4 troubles, on reprend toujours le même rythme. On regarde les facteurs de risque, les symptômes, et on pratique qu'est-ce qu'on ferait pour aider une personne qui est en crise. Alors, on pratique les 5 gestes de base pour les premiers soins en santé mentale.
Alors, ces troubles que vous venez de nous citer, est-ce que ce sont les troubles mentaux les plus courants, justement? Est-ce que c'est pour ça que vous vous introduisez cela particulièrement?
Oui, c'est justement la Commission de la santé mentale du Canada a conçu cette formation. C'est pas moi qui l'ai inventée. Et c'est fondé sur beaucoup de recherches par des spécialistes. Et justement, les 4 éléments sont plus courants. Plus courants, mais pour faire attention, les troubles psychotiques, ce n'est pas que c'est les moins courants. Mais on en parle parce que, bien sûr, il faut démystifier c'est quoi un trouble psychotique. Et souvent, parce qu'on peut avoir des images, des choses qu'on a vues dans les médias sociaux ou aux nouvelles. Donc, voilà, c'est vraiment conçu. La Commission de la santé mentale a vraiment bien réfléchi qu'est-ce qui nous apporterait aux gens qui prennent cette formation, comment cela pourrait les outiller pour au jour le jour.
Et justement, à partir de quel âge vous conseillerez de prendre ces cours en premier soin? Est-ce qu'il y a un âge de départ? Est-ce que ça peut se faire n'importe quand? Qu'est-ce que vous conseillez?
Cette formation en particulier est conçue pour les adultes, les 18 ans et plus, parce qu'on rentre, disons que c'est, je ne vois pas des jeunes, c'est peut-être trop d'informations. Pour les jeunes, ça serait moins attirant, sauf que j'aimerais dire, par exemple, que je donne aussi des formations à des plus jeunes sur la santé mentale. Je m'appuie sur les premiers gestes de base, sur les 5 gestes de base, mais c'est fait pour, tu sais, on parle aux jeunes. Alors, mais ce cours est vraiment vise la population adulte, 18 ans et plus.
Alors, vous nous avez parlé de gestes de base. Est-ce que vous pouvez peut-être nous les décrire?
Oui, tout à fait. Parce que ces gestes de base reviennent toujours pour les pratiquer. Et je vais les nommer, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5 et on a fini. Ces gestes de base, vous allez voir pourquoi, c'est très fluide, ils peuvent revenir. Donc, le premier geste, par exemple, on commence toujours, quand on est avec quelqu'un qui est en crise, on commence toujours par analyser le risque de suicide ou de blessure pour la personne. Alors, ça, on s'assure de ça. Une fois que ça s'est établi, le plus grand geste, le plus important, tant qu'à moi, là, c'est d'écouter sans porter jugement, d'écouter, de communiquer sans porter de jugement. On écoute la personne, on écoute ce qui la tracasse ou pourquoi... on écoute pourquoi elle se sent d'une telle façon, sans apporter de diagnostic, hein, parce que ça, c'est autre chose. Cette formation ne nous donne pas des degrés ou des certificats pour aller diagnostiquer les personnes du tout, hein. On est là pour appuyer la personne dans ce qu'elle vit. Et alors, je continue avec les gestes. J'ai parlé de... analyser le risque de suicide ou de blessure. On écoute sans porter de jugement. On rassure et on donne de l'information. On rassure la personne et tout dépend ce que la personne nous dit, mais on la rassure qu'on est là, on est à son écoute, que les troubles de santé mentale, c'est très commun. Alors, on la rassure pour être dépendant, comme je te dis, on peut donner de l'information. On incite la personne à aller chercher de l'aide, aller obtenir de l'aide professionnelle, aller parler à son médecin de famille, ou parler à peut-être un travailleur ou un travailleuse sociale ou un psychologue. On peut l'inciter à faire cela, dépendant de la nature de ce que la personne vit. Et bien sûr, toujours encourager le soutien supplémentaire. Et par ça, je veux dire, le soutien supplémentaire, ça peut être ton cercle d'amis, peut-être ta famille, peut-être une personne dans ton lieu de culte à qui tu fais confiance. Donc, on encourage cette recherche de soutien supplémentaire, d'aller parler. Parce qu'une personne qui vit avec un trouble santé mentale, si elle peut être entendue, écoutée, c'est déjà très important, une première chose. Alors, la personne, au moins, peut commencer sa démarche pour un rétablissement.
Et alors, au début de ces gestes de base que vous nous avez expliqués, vous nous avez dit notamment « écouter sans juger ». Est-ce qu'on pourrait ajouter aussi peut-être « écouter sans culpabiliser » ?
Oui, tu as touché un point très important, la culpabilité. Que la culpabilité chez la personne qui vit un trouble de santé mentale peut l'empêcher d'aller chercher de l'aide, c'est sûr et certain. Et la culpabilité chez la personne qui témoigne, qui est avec quelqu'un qui vit un problème de santé mentale, peut se sentir « Ah, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, je ne suis pas une bonne amie. » Ou si on est un parent, « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal avec mon enfant? » Pourquoi ça arrive? Alors, cette culpabilité, c'est la pire chose qui peut être en survol autour de cela. Donc, oui, quand on dit écouter sans porter de jugement sur la personne, sans porter de jugement sur nous, et dans la formation, on pratique cela parce que on se rappelle que nos valeurs, que des fois une personne qui est en crise ou quoi que ce soit, ça va peut-être contre nos valeurs. Et il faut surmonter cela et se dire, mais ce n'est pas l'histoire de mes valeurs ici, c'est l'histoire de cette personne devant moi qui est en crise. Comment puis-je l'aider? Alors, je l'écoute. Et oui, c'est ça. Et ça, c'est dans la formation, les gens, on échange beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire écouter sans porter de jugement?
Et justement, pour continuer sur l'idée de l'aide et du soutien, comment on peut aider un ou une proche à nous qui va mal, mais sans que cela, ça nous affecte et ça nous fasse sombrer nous aussi, parce que c'est vrai que d'être entouré d'une personne qui ne va pas bien, eh ben, nous aussi, en fait, ça nous fait entrer dans un certain mal-être au final.
Oui, alors, Donc, la première chose, il faut être conscient de ses limites, de ses propres limites. Et on revient à la culpabilité, et conscient du temps qu'on a, conscient de tout ce qui est autour de nous avant de pouvoir aider d'autres personnes. Et de ne pas se sentir responsable pour la santé de l'autre personne. Parce que la responsabilité revient à l'individu, à moi, à toi, à la personne qui vit en crise. Donc, quand on est la personne aidante pour donner ses premiers soins, il faut premièrement se sentir avoir certains outils, et la formation, justement, nous donne des pistes. Penser qu'il faut donner un diagnostic. En fait, on ne doit jamais donner aucun diagnostic. Nous ne sommes pas des médecins ou des psychiatres. Mais si on connaît ses limites et on a quelques outils, donc c'est plus facile d'aider l'autre personne sans sombrer aussi dans le mal que la personne vit. Et c'est comme lancer une bouée à une personne qui est peut-être en train de se noyer. On lance cette bouée. Hein? Et cette bouée, ça peut être juste être à l'écoute de cette personne, l'inciter à aller chercher de l'aide, tu sais, et juste être là, ouais.
Et est-ce que ces troubles, on peut réellement en guérir complètement un jour?
Ben, les troubles que j'ai mentionnés sont tous des troubles qui peuvent être, on peut se rétablir, tout à fait. On n'utilise pas le mot guérir, on utilise le mot se rétablir. Parce que souvent, ces troubles de santé mentale peuvent être chroniques. Et les causes, on n'est pas certain. On connaît les risques, les facteurs de risque. Tu sais, il y a un événement qui arrive, va m'affecter. Quand on est une maman, et peut-être que la naissance de notre enfant va déclencher une dépression postpartum. Des fois, si on est malade, une santé physique, si on a un cancer ou la diabète, ça peut produire aussi des problèmes de santé mentale. Donc, même des changements dans nos hormones, ça peut être chimique, c'est vraiment, vraiment large et complexe. Alors, est-ce qu'on peut guérir? On peut se rétablir en ayant l'aide professionnelle, en ayant aussi juste ce soutien, hein, pour aider la personne à s'en sortir et pouvoir contribuer à la société par après. Parce que, tu sais, j'en connais plusieurs personnes qui vivent, on vit avec un problème de santé mentale, on peut vivre avec une dépression majeure, on peut vivre avec un diagnostic de schizophrénie même. Et qu'est-ce que ça prend? Ça prend un appui venant du monde médical, ça prend un appui des gens autour de nous. Donc, c'est ça qu'on cherche, hein, c'est donner à chaque personne cette qualité de vie. Hein. Même si on a un trouble de santé mentale, on peut avoir une qualité de vie, ouais.
En fait, quand on se rétablit, c'est qu'on apprend à vivre avec.
Exactement, on apprend à vivre avec et peut-être on apprend aussi à mieux se connaître et à pouvoir éviter des déclencheurs. Hein? Donc, oui, c'est important de mieux se connaître et de s'entourer de personnes autour de nous qui peuvent peut-être être un miroir des fois pour nous, mais sans porter jugement, c'est sûr.
Pour parler d'un autre trouble, on va parler de la dépression. Donc, on a la dépression et la déprime qui sont deux choses bien différentes. Alors, pourquoi justement il ne faut pas les confondre et comment faire pour les différencier?
Ça, c'est une bonne question parce que les événements dans notre vie, il va y avoir des temps où quelque chose va arriver, peut-être qu'on va avoir une perte, un deuil. Je veux dire, ça, c'est la vie, hein. Et on va avoir une déprime, on va être triste, on n'y aura pas de sourire, et peut-être qu'on va s'isoler. Alors, on est en déprime. Si cette déprime dure plus que 2 semaines, là, ce serait bon d'aller consulter, juste pour aller voir. Des fois, une déprime peut être sur le bord d'une dépression, et si on peut aller consulter un médecin et on parle, on peut avoir des conseils, et ça peut être des médicaments. Ça peut être juste parler à quelqu'un. Ça peut être faire des différents choix de vie, s'assurer. Peut-être qu'on, si on est en déprime, on peut prendre un congé de notre travail et on se concentre à aller prendre des marches et à peut-être être avec des amis. Alors, il y a une grande différence entre la déprime qui arrive à presque tout le monde, vraiment, là, qui peut arriver dépendant de ce qui se passe autour de nous. Mais quand ça dure plus que 2 semaines, ça devient plus grave. Et donc, il faut vraiment consulter et aller voir comment on peut prendre soin de nous.
Et dans certains cas, il y a des personnes qui vont être un peu réticentes, en tout cas au départ, pour aller consulter quelqu'un. Et en réaction à ça, certaines personnes, en général les proches, vont dire « Oui, mais tu te complais dans ton malheur. » Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça?
Ça, c'est intéressant. J'imagine que cela, quand on est en déprime, c'est sûr qu'on n'est pas nous-mêmes. Hein? Il y a des choses, on ne voit pas la vie de la même façon. Alors, quand on est en déprime pour juste une couple de semaines à cause qu'on a vécu quelque chose qui nous a vraiment touchés et on est triste. Bien sûr, c'est bon d'être accompagné avec des gens autour de nous. Puis, tu sais, ça m'arrive hein, de parler à des gens qui sont en deuil et juste être à leur écoute et savoir que cela va passer, que ça va, par exemple, le deuil, la tristesse qu'on vit quand on perd quelqu'un, ça change avec le temps. Ça reste là, mais ça change. Et ça change dans un sens que on peut mieux vivre avec. Alors, quand une déprime peut être, je sais pas si le mot c'est surmonter, mais dépasser jusqu'à temps qu'on vit avec ce qui nous rend des tristes, ok, on l'accepte et on vit avec ça, on peut continuer à être à notre meilleur. Quand cela est plus grave, quand on ne peut pas trouver cette acceptance, qu'on n'est pas en mesure de dépasser cette déprime et que ça devient une dépression, eh bien, c'est là que ça prend de l'aide, de l'aide professionnelle. Et je comprends qu'il y a des gens qui sont réticents, puis, tu sais, peuvent se sentir, comme tu parlais, de la honte, hein, oui. La honte d'aller consulter. Si on se casse une jambe et que notre os, tu sais, il faut aller consulter, on n'a pas honte d'aller consulter, hein, pour aller voir un docteur pour faire réparer un os cassé, une fracture. On n'a pas honte disons qu'on a un problème avec notre appendice, on n'a pas honte d'aller consulter quand on a une maladie physique. Donc, moi, j'aimerais voir, avec cette formation, que ça change cette mentalité de cacher ou de se sentir que notre santé mentale, on ne peut jamais en parler. C'est ça que la formation vise, hein, à changer cette mentalité et à donner des outils aux participants pour juste prendre la personne par la main quand elle vit des problèmes de santé mentale, pour juste l'amener à prendre soin d'elle et à se rétablir.
C'est super que vous ayez fait cette comparaison avec, par exemple, la jambe cassée, parce que bah, justement, on néglige très souvent la santé mentale par rapport à la santé physique. Et comment est-ce qu'on peut lui accorder plus d'importance?
Oui, et justement, et pour ça, il faut changer la culture autour de la santé mentale. Et moi, je trouve ça fascinant parce que notre santé mentale, quand on a une santé mentale positive, c'est là qu'on est à notre meilleur. Parce que je peux avoir une maladie grave, je peux être même sur le lit de ma mort, comme on dit là, hein, prête à mourir, et je peux avoir une santé mentale positive. Pour moi, la santé mentale, c'est le lien ou la partie peut-être la plus importante de nous. Quand on a une santé mentale positive, tout est possible. Et pour avoir une santé mentale positive, il faut se munir d'outils quand on se sent moins bien. Il faut reconnaître nos limites. Il faut aller demander de l'aide quand le besoin est là. C'est intéressant comment la santé mentale et la santé physique vont de pair. Et si la santé mentale n'est pas à son meilleur, bien, c'est comme si notre aide ne peut même pas fonctionner.
Merci beaucoup Francine de nous avoir partagé vos connaissances sur la santé mentale. On espère que ça pourra aider nos auditeurs et on espère qu'il y aura du monde à votre formation, car c'est un sujet important à ne pas négliger.
Oui, mais ça me fait plaisir de pouvoir en parler. Merci pour l'invitation.
Parents d'élèves, enseignants, francophones, et les élèves, vous écoutez votre radio Saint-Pierre ? Aujourd'hui, rien de plus facile. Juste avec un simple clic, téléchargez votre application sur App Store et Google Play. Bienvenue !